Nos invités, Laurence Rossignol, vous êtes sénatrice PS de l'Oise, présidente de l'Assemblée des femmes. Vous avez été ministre des Familles, de l'Enfance et du Droit des Femmes. Et vous êtes co-rédactrice de ce rapport dont on va parler, hein, ce rapport sénatorial qui est intitulé « Porno, l'enfer du décor ». Justine Atlan, vous êtes directrice générale de l'association e-France. Je rappelle alors le numéro de téléphone si pour les enfants, voire les parents hein, qui seraient victimes de harcèlement. Voilà, c'est le 3018, il s'affiche. Dans un instant, Rola Tarsissi va nous rejoindre. C'est elle qui a réalisé l'enquête qui a été diffusée hier soir pour complément d'enquête intitulée « Le porno sera-t-il bientôt interdit ?». Je vous propose pour commencer précisément de regarder un extrait de ce complément d'enquête hier soir. Ce sont le témoignage de deux actrices qui ont accepté de sortir du silence et de raconter ce qu'elles ont subi. C'est donc un reportage qui a été fait par Rola Tarsissi, Mathieu Dréjou et Michel Pignard.
À toutes les scènes, je passe mon temps à dire non. Je passe mon temps à dire à les pousser, à dire non. Je suis sur lui, il me maintient. Et en fait, de là, j'ai une double pénétration forcée, alors que j'avais dit non. Donc j'ai mal, je pleure, je saigne, mais... Personne s'arrête. Tout le monde s'en fout. Personne me dit est-ce que ça va. Enfin,
Et moi, je suis debout et lui, il passe, mais il me pousse. En fait, il a aucun respect et il gueule. Il fait que crier. Moi, je me suis vue comme une moins que rien parce que je me faisais gueuler dessus parce que je prenais pas de plaisir. Je me suis fait gueuler dessus parce que je mouillais pas. Mais maintenant, je réalise que j'ai été violée pendant les scènes.
Rola Tarsissi, ce qui est très fort et ce qui nous remet en place, c'est que pendant très longtemps, on s'est dit, mais on avait du mal à associer viol et porno en disant, bah, les filles, les actrices qui vont là-bas, elles y vont en connaissance de cause, elles savent ce qui les attend. Et en fait, on entend ce témoignage, toutes les scènes, j'ai passé mon temps à dire non.
Alors oui, justement, en fait, c'est ça aussi qui n'est pas normal. En fait, dans cette affaire, il y a au moins 5 jeunes femmes qui ont essayé de porter plainte, notamment pour viol. Et au commissariat, on leur a dit, c'est pas une affaire de viol, c'est un litige commercial, votre histoire. Donc ça veut dire que finalement, dans la justice n'était pas forcément prête à entendre ces témoignages. Ils se disaient, bah, elle a signé. Sauf qu'en fait, c'est une jeune femme qui signe, qui a l'impression que c'est pour une pratique avec une seule personne. Et puis, bah non, elle arrive, il y en a 2, 3, 4, et on lui propose des choses, et on insiste un peu et tout. Donc c'est vrai que on a l'impression que le consentement se monnaie, et en fait, c'est pas aussi simple que ça.
Laurence Rossignol, d'ailleurs, vous faisiez remarquer que c'est la première fois que le politique s'est emparé de ce sujet, parce que jusqu'à présent, c'était pas sans succès. C'est quoi ? C'était par gêne ou bien c'est parce que il n'y avait pas matière à fouetter un chat ?
Probablement un peu des deux. Vous savez, depuis les années 70, on sait maintenant, parce que les féministes l'ont affirmé, que le privé est politique. Et les femmes, les féministes, se sont emparées de cette phrase parce qu'elles y ont intérêt. Parce qu'à un instant, on disait qu'il y avait une présomption de consentement quasi irréfragable qui pesait sur ces femmes, sur ces actrices. Même présomption de consentement sur les personnes prostituées. Quand des prostituées allaient porter plainte pour viol il y a quelques années, on considérait que la prostitution n'était pas compatible avec l'idée du viol. Et puis je vous rappelle qu'avant, il y avait aussi le devoir conjugal et qu'il a fallu que le code pénal intègre la notion de viol conjugal. Toute épouse était présumée être toujours consentante. Donc, on progresse sur ces sujets et les femmes s'en emparent. Disons la vérité, c'est la délégation aux droits des femmes du Sénat qui a fait ça. Parce que nous travaillons sur les violences sexuelles et sexistes. Et que dans ce travail-là, nous avons à un moment donné pris conscience, nous savons que ce qui se passe dans l'industrie pornographique, mais aussi les contenus, on en parlera, participent de l'architecture des violences sexistes et sexuelles, de leur banalisation et de leur reproduction. Et qu'elles sont à la fois ces violences sont à la fois dans les méthodes de recrutement, dans les méthodes de tournage et dans les contenus qui sont diffusés. Donc le politique a été très long à s'en emparer parce que les hommes n'avaient pas très envie de. On n'a jamais très envie de parler de ces sujets. Ils sont infiniment plus gênés.
Alors d'ailleurs, dans votre rapport du Sénat, il y a 4 femmes. Aucun homme. Pourquoi ?
Alors, d'abord, c'est...
Alors, et d'ailleurs, je mets à culpa, ici, il y a 3 femmes. Il devait y avoir un homme. Et puis, finalement, c'est vous qui avez réalisé l'enquête, plutôt que Tristan Walex, hein, qui est venu nous en parler.
D'abord, c'est la délégation aux droits des femmes, qui est quand même composée majoritairement de femmes. Donc, c'est pas surprenant. Et puis, en plus, parce que c'est les femmes qui ont le courage, j'ai envie de dire, d'affronter ces sujets, parce que c'est elles qui en sont victimes, collectivement. Moi, je pense que nous sommes toutes collectivement victimes de l'industrie pornographique. Même si on ne joue pas dedans, même si on n'en regarde pas, on en est victime parce qu'elle propage l'idée qu'en fin de compte, les sexualités qui sont mises en valeur sont des sexualités qui pourrait être possible pour tout le monde. Donc, bien, les femmes défendent leur dignité, et, mais les hommes nous ont soutenus, et notre rapport a été adopté à l'unanimité en délégation, ce qui prouve que les hommes présents sont aussi...
Des pères, des frères, et bien conscients des ravages que ça peut... Justine Atlan, vous confirmez, ce sont bien souvent, malheureusement, les femmes, les filles, les petites filles, parce que à l'association e-enfance, qui sont les, principalement, essentiellement les victimes des violences sexuelles.
En tout cas, on le constate sur les adolescentes, c'est-à-dire que sur le 30-18 qu'on opère, c'est effectivement essentiellement des adolescentes qui nous appellent parce qu'elles sont victimes d'échanges de contenu qui leur sont demandés par les garçons, qui eux-mêmes reproduisent des modèles finalement qu'ils voient en pensant que quand on est un garçon, un homme en devenir, il faut qu'on ait envie de ce type de contenu-là, donc il faut les demander à une fille, et donc la fille se sent obligée de les envoyer. Voilà, donc ça commence déjà finalement à violer du consentement, même d'échange d'images, d'exposition de soi, de son image, hein, donc de son corps, et donc de là on glisse effectivement ensuite sur des pratiques sexuelles qu'ils découvrent ensemble, mais déjà avec ces modèles en tête.
Voilà, Tarsici, on est tous malheureux, enfin, on voit très bien de quoi on parle avec ces vidéos. Est-ce que vous, qui avez enquêté là-dessus, quand même, vous vous êtes dit, je n'imaginais pas que j'allais découvrir ce que j'ai découvert, ou vous avez décortiqué des choses que malheureusement on ne voulait pas voir, mais dont on voit bien qu'elles circulent abondamment sur Internet.
Alors très honnêtement, je n'imaginais pas du tout, du tout ça, vraiment. C'est-à-dire que pour moi, les images qu'on trouvait sur Internet, c'était des jeunes femmes ou des femmes qui avaient accepté d'être là, qui étaient payées pour être là, qui savaient ce qui les attendait avant, qui jouaient à la comédie. Je ne m'étais pas vraiment intéressée à la question. Et effectivement, en décortiquant, on se rend compte qu'en effet, il y a des vidéos qui circulent même encore maintenant, hein, qui, de jeunes femmes qui pleurent, qui demandent des préservatifs et tout. Et en fait, c'est des jeunes femmes dont le consentement a été bafoué, en fait. Et ça circule. Et elles demandent leur retrait et elles n'arrivent pas à l'obtenir.
Alors justement, je vous propose qu'on écoute le deuxième témoignage d'une jeune fille en pleurs qui raconte un petit peu ce que vous venez de décrire. C'était hier dans Complément d'enquête, on regarde.
Hélène, étudiante, n'a plus de quoi payer son loyer. À l'époque, Pascal Opé leur promet 1 500 € pour quelques heures de tournage. Il leur assure que ces images ne seront pas diffusées en France, mais au Canada, sur un site confidentiel. Mais rien ne se passe comme prévu.
Et ils mettent leur deux sexes dans mon vagin. Je savais même pas que ça pouvait passer. Je savais même pas que ça se faisait. Et du coup, j'ai eu mal, mais je m'en souviens toute ma vie. Et l'après-midi, ils reviennent. Et un deuxième film. Je suis pas au courant. Elle me dit, mais t'as pas fini.
Selon elle, le producteur leur aurait proposé des pratiques qui n'étaient pas prévues en menaçant de ne pas les payer.
Ben, ils m'ont payé à la fin. Ils m'ont payé vraiment quand j'ai tout fini, quand on m'a achevé. Ce qu'ils m'aiment le dire, achève là. Donc, quand ils m'ont achevé, il m'a carrément déshumanisé.
Laurence Rossignol, vous connaissez ces sujets, vous avez été ministre, etc. Et néanmoins, en travaillant sur ce rapport sénatorial, vous avez vous aussi été chamboulée parce que vous avez découvert ce que vous avez vu.
On a auditionné à huis clos une dizaine des plaignantes de ce grand dossier judiciaire, parce que maintenant c'est un dossier judiciaire, avec leurs avocates qui nous ont raconté ce qu'elles ont vécu, c'est-à-dire à la fois le processus de recrutement, qui est très bien traité aussi, et puis la manière dont on casse les femmes, quand elles arrivent, c'est-à-dire que c'est le viol d'initiation, c'est la même chose que dans les réseaux de proxénétisme et de traite des êtres humains, c'est pareil, c'est la même méthode. Et puis après, tout ce qu'on leur inflige comme torture, parce que ce sont des tortures et des actes de barbarie, et je dois dire qu'on est ressorti de cette audition vraiment, mais bouleversé, voilà, je ne sais pas dire autrement, bouleversé par, est-ce qu'elle le dit, c'est déshumanisant ce qu'elles ont vécu. Donc voilà, c'était terrible. Et si notre rapport, si vos reportages, si votre action, si l'action des associations féministes, parce que tout ça est possible aujourd'hui, parce qu'il y a les associations, les plaintes, les instructions, c'est pour ça que c'est possible. Si on peut mettre fin à ça, moi, j'aurais pas perdu ma vie de parlementaire, hein, croyez-moi.
Alors, Rola Tarsici, il y a les violences physiques infligées, mais il y a aussi le mensonge. On l'a entendu au début, cette jeune fille, on lui a dit que c'était uniquement pour des vidéos privées qui seraient diffusées sur un réseau privé au Canada. Elle n'avait pas signé pour ça. Et en fait, elle se retrouve exhibé sur Internet. C'est une mort sociale en plus.
Oui, c'est ça. Alors, c'est ça qui est assez incroyable. Alors, c'est pour le coup vraiment sur cette affaire précisément. Donc, ces jeunes femmes ont été recrutées. En fait, on leur a menti. On leur a dit c'est à destination de la Russie ou du Canada pour un site confidentiel, un site payant. Il n'y aura qu'un homme. Il y aura effectivement, s'il y a certaines pratiques que tu ne souhaites pas faire, tu ne les feras pas. Et en fait, quand elles arrivent, admettons, elles font une scène, deux scènes. Et puis bah, on leur dit, mais maintenant, t'as tourné, si jamais tu continues pas, on te paye pas. Et en fait, on se rend pas compte de la pression psychologique. C'est-à-dire qu'elles, elles sont déjà vulnérables de par, effectivement, leur jeune âge, leur situation de précarité. Et donc là, il y a deux, trois, quatre hommes qui arrivent, qui leur mettent la pression, elles sont toutes seules. Alors souvent, il y en a une, elle m'a raconté, j'avais même pas de ticket de métro pour rentrer chez moi, j'avais même pas de quoi acheter un kebab, et ils le savaient. Donc en fait, elles étaient quasiment prises en otage. C'est-à-dire que c'était une pression, c'est-à-dire qu'elles pouvaient partir. Tout le monde leur disait, mais tu peux partir et tout, mais... Pour aller où, en fait, elles sont au milieu de la campagne. Enfin, c'est, pour le coup, en tout cas, cette histoire, précisément, est vraiment sordide sur ces ressorts-là.
Justine Atlan, vous avez des témoignages comme ça de jeunes filles qui disent « Oh, bah, ce sont des vidéos glamour, on parle de choses érotiques », et puis en fait, qui mettent le doigt dans quelque chose dont elles n'imaginent pas où ça peut les mener. Au fond, c'est réseaux sociaux, tiens, montre-toi bien, et puis on termine dans... ce qu'on vient de voir.
Alors c'est vrai que ça en fait, c'est la télé-réalité avant même les réseaux sociaux quand même a généré un peu cette merchandisation du corps, cette banalisation pour les filles de valoriser leur corps financièrement. Voilà. Dans des échanges, on voit que les jeunes du coup banalisent ces pratiques-là. On touche un peu à la prostitution. Hein. Il y a des comportements prostitutionnels qui commencent avec juste vendre son image, c'est-à-dire que ça banalise le fait de vendre son corps. On vend pas tout de suite son corps, on vend l'image de son corps. Et puis petit à petit, on va vendre son corps et effectivement aller dans ces pratiques-là. Effectivement, il y a le côté glamourisation. Et c'est là où il faut effectivement avoir des rapports, montrer la réalité pour montrer aux jeunes filles que c'est tout sauf glamour et qu'effectivement, à un moment, le consentement, il est violé avant même que le corps le soit. Et en même temps, et ça, c'est vrai qu'il y a une espèce de fantasme, de mythe, parce que les réseaux sociaux véhiculent aussi une hypersexualisation des jeunes filles et des petites filles très petites. Enfin, tout ça arrive finalement dans une société, malheureusement, qui conditionne aussi beaucoup ces pratiques autour. Et c'est ça aussi qu'il faut peut-être réfléchir, y compris effectivement dans l'éducation de nos enfants.
Et Laurence Rossignol, ce que montrait aussi votre complément d'enquête, c'est la mort sociale. Le truc rouge là, qui est sur le front de ces actrices, il y avait dans le complément d'enquête une jeune femme qui n'ose plus sortir dans la rue, qui fait tout en voiture, y compris amener son petit enfant à l'école, parce qu'elle dit « on me reconnaît oui, ». Et je trimballe ça toute ma vie.
Et ce qui est terrible, c'est que c'est d'abord... La première chose que je me suis dit, mais en fait, entre chez elle et la boulangerie, tout le monde regarde des vidéos porno.
Oui, comment ils
l'ont...
Oui,
c'est la première chose que je me suis dit, mais en fait, comment ses voisins l'ont reconnu? Moi, si ma voisine tombe dans une vidéo porno, je risque de ne jamais le savoir.
En fait, il y a toujours un moment où quelqu'un le répète à quelqu'un. Là, je l'ai eu au téléphone pour la prévenir, effectivement, de la date de diffusion. Elle m'a raconté que dans son travail, quelqu'un a fait circuler la vidéo.
C'est
maintenant,
ça.
Elle est encore obligée de changer de travail. Et elle a beau essayer de faire supprimer les vidéos. Donc, elle m'a montré. Ah. Elle fait des messages. Donc, on en supprime une. Mais en fait, elles sont toujours repostées, dupliquées. Et elle n'arrive pas à obtenir.
Là où elle est embauchée, il y a toujours quelqu'un, un collègue, qui repère une vidéo, qui s'amuse à la faire circuler.
Mais oui, c'est ça.
C'est rigolo. Ouais.
Non, et puis, il y a quand même une chose terrible, c'est que ce sont les mêmes qui consomment du porno qui méprisent les femmes qui jouent dans ce qu'ils consomment. En fait, moi, à la fin, je me dis, ils consomment du porno pour mépriser les femmes. En fait, il y a un lien. Mais leur rapport aux actrices est quand même très étrange. Et en fait, ça finit toujours par l'éternelle phrase, c'est toutes des putes. Voilà. Les femmes sont toutes des putes. Et c'est ce que le porno véhicule systématiquement. Et ça tombe... Enfin, c'est pas simplement... Comme c'est pas des images. Le problème du porno, c'est que c'est pas du cinéma. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Le cinéma, c'est simulé. On tue pas les gens, le gars il tombe, il a reçu une balle, mais après il se relève dans un film. Tandis que là, rien n'est simulé. Tout est vrai. Donc ça change aussi le rapport qu'a le spectateur avec les scènes qu'il voit.
Tout est vrai, sauf le plaisir.
Alors voilà, vous avez raison.
Et ce qui est quand même fondamental, théoriquement. Voilà, donc c'est vrai que c'est là où, parce qu'encore une fois...
Sauf le plaisir, or, dans les petites filles, elles disent, mais pourquoi la dame, elle a l'air d'être contente
Même les garçons, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'encore une fois, faut bien avoir en tête qu'on n'éduque pas que les filles, on éduque les garçons et les filles avec le porno, et les garçons eux-mêmes ont une fausse représentation que ce que c'est qu'une femme qui a du plaisir. Et tout ça, ça fausse quand même tout le monde dans des représentations compliquées. Effectivement, pour avoir du plaisir, si on crie, c'est qu'on a du plaisir. Si on crie pas, c'est qu'on en a pas. Enfin voilà. Donc c'est quand même des mélanges des genres très.
Il y a une
compliqué.
Image. Pardon. Si je peux bien juste un instant.
Ouais, ouais.
Dans le rapport, on dit que le porno est souvent lesbophobe, c'est-à-dire homophobe et particulièrement lesbophobe. Il y a des scènes qui sont
la détestation des femmes.
Non, des lesbiennes.
Des lesbiennes.
Ah. Pourquoi ? Il y a beaucoup de scènes avec deux femmes, deux lesbiennes mises en scène, et puis arrive un homme. Ah, ouais. Et là, pour elle, c'est un nouvel horizon qui s'ouvre. Et en fait, ça véhicule l'idée que les lesbiennes sont juste des femmes qui sont en attente de voir un jour arriver un homme dans leur vie. C'est vraiment la lesbophobie absolue, c'est qu'elles ne sont pas reconnues, ça ne reconnaît pas l'homosexualité féminine comme étant une sexualité de ces femmes, c'est une sexualité en attente de l'arrivée d'un homme. Et ça, c'est des images terribles. Moi, je pense que c'est lesbophobe, c'est raciste, on trouve tout ce qu'on veut dans le porno.
On va revenir sur les conséquences de ces images et ces idées qu'elles véhiculent. Pour revenir sur le sort de ces actrices, on voit dans le reportage, dans votre complément d'enquête, des jeunes femmes qui, comme elles en ont assez d'être reconnues et de devoir changer de métier, parce que pourquoi n'arrivent-elles pas à obtenir le retrait de ces vidéos ?
Mais alors ça, pour le coup, moi, j'ai été extrêmement surprise aussi. En fait, elles l'ont demandé sur les plateformes, mais comme toutes ces vidéos sont dupliquées à l'infini, sont volées par d'autres sites, elles n'arrivent pas à... Tant que les vidéos... Alors, je ne sais pas si le jour où, si à un moment, il y a une condamnation, etc., elles arriveront, mais je ne suis même pas certaine qu'elles arriveront un jour à obtenir l'effacement de ces vidéos.
Mais elles payent le producteur ? Elles envoient des chèques au producteur ?
Mais non, en fait, c'est pas elles, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elles, à partir du moment où elles disent « ce sont des images de moi qui ont été prises sans mon consentement, elles font l'objet d'une plainte pour viol », elles ont signé une cession de droit à l'image qui ne tient pas deux minutes, en fait, mais elles ont l'impression qu'elles ont signé. Donc, en fait, elles ont l'impression d'être tenues. Et moi, c'est vrai que c'est une question que je me suis énormément posée. C'est, en fait, quand on où est-ce qu'on place le curseur ? C'est-à-dire la responsabilité de qui ? Le diffuseur, le producteur, le réalisateur, l'acteur et toutes ces plateformes. À un moment, à partir du moment où elles sont au courant qu'il y a une personne qui ne désire pas être sur leur site Internet, je ne comprends pas pourquoi les plateformes ne les enlèvent pas et... finalement, les institutions aussi, quoi.
Est-ce que ces jeunes femmes aussi, par moment, le producteur disait, tiens, donne-moi un chèque et puis je vais retirer. Est-ce que c'est pas aussi une source de revenus supplémentaire pour le producteur après l'avoir cassé physiquement, l'avoir cassé moralement, on l'escroque une dernière fois financièrement en lui faisant payer contre la promesse illusoire de retirer la vidéo du site.
Alors si, il les retirait, mais justement, c'est-à-dire que certaines jeunes femmes, donc, elles ont été payées 200 ou 300 euros pour des
scènes.
Je passe les détails, donc sordides. Donc elles étaient déjà dans une situation de grande précarité pour avoir accepté ça. Donc elles pensent que les vidéos ne sortiront pas, les vidéos sortent. Donc là, elles sont insultées, humiliées, reniées par leur famille, donc c'est très compliqué pour elles. Et puis, donc, elle appelle le producteur en disant « Mais je te rends ton argent. » Donc, c'est 200 ou 300 euros. Il retire les vidéos et tout. Et là, il lui dit « En fait, c'est 3-4 000 euros parce que c'est tous les frais et tout. » Donc, la jeune femme s'endette, paye. Lui, il prend l'argent. Attendez, elle paye en plusieurs fois et il ne retire les vidéos que quand elle a fini de payer.
Ah ouais.
Il les retire, donc c'est vrai. Sachant pertinemment qu'en fait, elles ont été dupliquées à l'infini et que ça ne sert à rien. Donc, en fait, c'est la triple peine. C'est-à-dire qu'elle a été violée. Ensuite, les vidéos se retrouvent sur Internet. Elle est humiliée et après, elle est rackettée. Les vidéos sont toujours là et elle peut rien faire.
Mais...
seuls les producteurs obtiennent le retrait d'une vidéo. C'est-à-dire c'est une compétence, c'est une prérogative du producteur dans les relations commerciales qu'il a avec les diffuseurs ou parce qu'il a lui-même un site, que de faire retirer la vidéo. Et c'est pour ça que dans les propositions qu'on fait dans notre rapport, il y a entre autres celle de, que la loi donne aux femmes la possibilité d'obtenir elles-mêmes le retrait de la vidéo sans passer par le producteur et ce racket que vous décrivez très bien.
Justine Atlan, on se dit il faut être fort dans sa tête pour supporter le viol, la mort sociale, on ne peut plus se promener dans la rue, la mort financière, c'est-à-dire que j'en reviens, et l'humiliation même de soi-même. Mais qu'ai-je fait comment ai-je pu être assez idiote pour me faire prendre là-dedans? On se dit que ça doit très mal se terminer, non? Parfois, non?
Parfois, oui, par nature. Le problème, c'est que la femme, définitivement, n'est pas sujet dans sa vie sexuelle, n'est pas sujet dans la société. C'est-à-dire que là, c'est la femme objet jusqu'au bout. C'est un objet, effectivement, d'escroquerie, de plaisir des autres, mais dans la violence. Enfin, voilà. Donc, il faut, effectivement, ce rapport, il est vraiment là pour remettre la femme en tant que sujet, c'est-à-dire acteur, décideur, etc., qui a le droit de vouloir être actrice de pornographie, mais qui a le droit de faire ça dans un cadre légal, protégé, avec des contrats qu'elle peut comprendre. Quand elle sait qu'elle accepte de céder ses droits, elle sait combien de temps ou pas au-delà, effectivement, parce que quand même, normalement, elle est tout à fait en droit d'aller réclamer le fait qu'on bloque, qu'on supprime les contenus qui sont diffusés sur une plateforme à laquelle elle n'a pas autorisé que ce soit diffusé. Ça reste quand même son image. On ne cède pas non plus son image éternellement, partout, tout le temps. Normalement, on le cède pour une durée et pour une diffusion qui est très ciblée. Donc, c'est scandaleux que les producteurs s'approprient à 100% le droit de propriété sur l'image de ces femmes, indépendamment même du contenu lui-même, s'il est effectivement illégal dans son contenu. C'est ça aussi, c'est que personne aujourd'hui, avant vous, n'avait osé aller regarder de près concrètement, c'est quoi ces contenus pornographiques. On parle du sujet, mais personne n'ose dire ce qu'il y a dedans, et il y a des choses très différentes, des choses classiques, normales, qui peuvent exister, et d'autres malheureusement majoritaires qui sont illégales.
Allez, regardez dans les contrats. Et c'est vrai que Colette Tarsici, il y a cette expression, le porno amateur, comme si on faisait ça dans sa cuisine, donc c'est normal qu'on soit un peu borderline. Et donc, il faut être pas trop regardant sur les contrats. Ça aussi, c'est une illusion qui leur permet d'être en dehors de toutes les règles.
Alors attention, moi, c'est pour le coup, dans mon enquête, c'est ce que j'ai constaté, hein, c'est pas exhaustif, mais en tout cas, toutes les personnes avec lesquelles j'ai été en contact, elles signaient un contrat qui finalement n'avait aucune valeur et elles n'en étaient pas forcément conscientes. C'est-à-dire qu'elles se disaient, j'ai signé. Donc il y en a même certaines qui n'osaient pas aller au commissariat en disant, bah, en fait, j'ai signé, donc c'est de ma faute, j'ai accepté. Donc du coup, il y a une espèce de zone grise comme ça où elles ne savent pas forcément, elles ne connaissent pas leurs droits. Et donc, elles n'osent pas aller porter plainte. Et d'un autre côté, vous avez effectivement les diffuseurs, c'est pas les diffuseurs là pour le coup, c'est les producteurs, quand on les appelle, qui disent « Ah ben non, mais t'as signé, maintenant, fallait pas le faire, fallait réfléchir avant, c'est trop tard. » Et ils font exprès justement de prendre des jeunes femmes naïves et précaires qui vont pas savoir où s'adresser. Quoi.
Laurence Rossignol, c'est vrai qu'on parle de recueillir la parole des femmes, parce qu'on imagine la gêne et la façon dont certains au commissariat peuvent recueillir ces plaintes. Tiens, j'ai une actrice porno qui se plaint d'avoir été violée. C'est des deux côtés, c'est pas facile.
Oui,
mais c'est là où il y a du progrès à faire.
Non, mais c'est pas facile pour elle parce que quand même ces jeunes femmes qui sont recrutées par des méthodes diverses sont le plus souvent des jeunes femmes vulnérables, précaires financièrement, qui ont vraiment besoin de quelques centaines d'euros. Il y en a une qui dit, parce que je suis mère, je suis famille monoparentale, je suis toute seule avec mon enfant, il faut que je paye mon loyer. Elles ont besoin de quelques centaines d'euros. Elles sont fragiles financièrement et psychologiquement aussi. C'est des femmes vulnérables. Donc, c'est vraiment des réseaux d'exploitation de la vulnérabilité des femmes. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors après, évidemment, au commissariat ou à la gendarmerie, pour elles, c'est compliqué parce qu'elles n'ont pas forcément les outils. Elles n'ont pas d'avocat. Jusqu'à présent, elles n'avaient pas d'avocat et c'est ce que maintenant elles en non, grâce aux actions qui ont été engagées l'année dernière. Mais surtout, effectivement, les policiers n'étaient pas formés. Enfin, ils n'étaient déjà pas formés, si vous voulez, à recueillir la parole des femmes victimes de violences, à recueillir la parole des femmes qui venaient dénoncer des abus sexuels dans leur propre famille. Bon, comment voulez-vous qu'ils soient formés à recueillir la parole des femmes victimes des femmes victimes des réseaux d'industrie pornographique. Alors maintenant, et c'est vraiment le but de ce qu'on fait, c'est que j'espère que mais ça va bouger parce que franchement, le parquet de Paris instruit tout ça avec une détermination.
Suite à votre rapport ou concomitant?
Non, ils ont commencé avant. Notre rapport est concomitant à ça. Mais il y a quand même une soixantaine de plaintes, je crois, parce que entre le moment où vous avez tourné et puis maintenant, ça a encore augmenté. Hier, on a fait une conférence de presse des associations. Voilà.
Je crois qu'on est à 46 maintenant pour les parties civiles.
Parties civiles. Ah ouais. Il y a
d'actrices qui...
Voilà. Ouais, après le parties civiles. Après, je crois qu'il y a plus de victimes présumées qui ne souhaitent pas porter plainte, qui ne sont pas constituées parties civiles.
Voilà. Et on est à une dizaine de mises en examen.
12.
12 mises en examen, alors, dont un certain nombre de détentions provisoires, quand même. Donc ça, voilà, on en parle.
Alors, est-ce que c'est Internet qui a changé cette industrie du porno? Je vous propose, on a retrouvé dans les archives de Nina ce qu'on disait du porno il y a 50 ans, dans les années 70. Bah, c'était connoté positivement, et à l'époque, on parlait même de cinéma érotique. Regardez comment était traité le porno en 76, archives de Nina.
Cette année, un film français sur trois sera érotique ou pornographique. Libéralisation de la censure, évolution des mœurs, mode venue des pays nordiques ou bien disent certains, conséquence de mai 68, le sexe envahit les écrans. Pour les exploitants de salles malmenés par des années de crise, le chemin est tout tracé, l'avenir s'est teinté de rose.
Si on se laissait aller, on serait peut-être tenté d'en programmer davantage.
Est-ce que vous n'avez pas peur qu'une programmation intensive risque d'éloigner de vos salles les familles, par exemple?
Si, et je pense que tous les exploitants doivent avoir cet objectif, éviter que leurs salles ne se spécialisent dans un caractère qui éloigne tout de même une grande partie de la clientèle.
Le sexe est une chose qu'il faut défendre à fond, qu'il faut soutenir. En général, d'ailleurs, le sexe, qu'on sait bien, ça se soutient tout seul. Et je crois qu'il faut promouvoir le sexe. Ce qu'il faut attaquer, enfin c'est pas la peine de l'attaquer, moi ça m'intéresse pas d'attaquer ça, mais je crois que ce qui est moins bien, c'est toute l'industrie qui est faite autour, parce que, je répète, c'est fait par des gens qui n'ont pas de talent et qui sont des gens qui essayent de gagner le plus de fric possible, le plus vite possible.
J'ai fait, je sais plus, 4 ou 5 films, c'est pas beaucoup. Je l'ai fait parce que j'avais besoin d'argent. Et ça ne m'a rien apporté, sinon ça m'a fait chier. J'ai fait ça sans aucun plaisir. Au point de vue comédien, ça m'a rien apporté du tout.
L'argent ?
L'argent, très peu, très mal payé.
Alors, Relateur Sissi, c'était pas le même porno hein, à l'époque.
Alors non, le porno a énormément changé et on voit qu'aujourd'hui, ça se consomme vraiment sur Internet. Enfin, je crois que la très 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 grande majorité des vidéos se consomment gratuitement et sur Internet. Donc, il y a une offre pléthorique. Donc forcément, le fait d'avoir des petites vidéos tout le temps, les consommateurs sont habitués à voir de nouvelles jeunes femmes, de nouvelles têtes, etc. Et on se rend compte qu'en fait, que sur ces vidéos... On parlait tout à l'heure de porno amateur et de porno plus ou moins professionnel. Dans cette affaire, sur les 12 mis en examen, il y en a plusieurs qui sont en fait des acteurs, des réalisateurs, des producteurs qui sont connus et qui travaillent pour des grandes plateformes ou avec des grandes plateformes comme Jackie et Michel ou Dorcel. Donc après, eux, ils peuvent vous dire effectivement, nous, on n'y est pour rien, c'est pas dans nos vidéos, c'est pas dans sur nos plateformes. Pour autant, du coup, c'est difficile de penser qu'ils ne savaient pas ou qu'en tout cas, que c'est pas un seul milieu. C'est-à-dire qu'eux vont dire, y a le porno amateur et puis nous, le porno chic un peu plus professionnel. Je pense que la frontière est floue et beaucoup plus poreuse que ce qu'ils essayent de nous dire.
Laurence Rossignol, même question, Internet a changé cette industrie ?
Oui, parce que ce qu'Internet a changé, c'est d'abord le volume de consommation, parce que quand il y avait deux salles de cinéma qui changeaient le film toutes les semaines et qu'il fallait rentrer au vu au sud tout le monde dans la salle de cinéma, ça limitait quand même un peu les choses. Après, il y a eu les vidéos, il y a eu les cassettes, et Internet a effectivement tout changé. Alors, comme ça vient d'être expliqué, avec une espèce de porosité entre l'amateur et le pro, c'est-à-dire que c'est du faux amateur, en réalité. Voilà, ce sont... des gens dont c'est la profession, enfin le métier, d'organiser et de monter, de produire des vidéos, enfin de réaliser des vidéos.
Puis c'est après, ce qu'ils appellent le pro-am, c'est le professionnel, mais qui doit avoir l'air amateur, parce que les gens aiment bien la fille du coin de la rue, etc.
Parce qu'on n'est plus dans le cinéma, dans la simulation, on est dans la vraie vie. Hein. Donc c'est ce qu'on
dit. Voilà, on est dans la vraie vie, voilà.
Enfin, on est supposément
dans la vraie vie. Le fantasme de la voisine, la boulangère.
Voilà, ça coûte pas cher. Et puis c'est des plus petites, je crois que c'est des plus petites tubes aussi, il y a aussi ça. Mais ce que ça a changé, c'est que comme il y a beaucoup de consommateurs et que le consommateur se lasse vite, vous savez, c'est valable à peu près dans tout. Donc il faut tout le temps renouveler ce qui va être offert au consommateur pour le fidéliser, pour qu'il reste renouvelé. Ça veut dire quoi ? Je vais parler comme ils parlent eux, parce qu'ils considèrent que les femmes sont du matériel, les femmes sont des matières premières de leur business. Il faut renouveler le stock des femmes, il faut qu'elles changent tout le temps, il faut qu'il y en ait des nouvelles tout le temps. Et il faut renouveler les contenus. Et il faut que les contenus soient toujours de plus en plus extrêmes et hard et trash. Donc ce qu'Internet a produit, c'est plus de consommateurs, de 650 millions de clics par mois en France sur un site porno. 650 millions de clics. 17 millions de Français.
Alors, c'est 30, un Français sur trois dit consommer des vidéos porno.
Voilà. Et on parle de la France, mais comme c'est un business qui est mondial, parce que tout est accessible, c'est un énorme business. Et donc, c'est de plus en plus de femmes qui sont attirées dans les filets des recruteurs pour tourner des scènes de plus en plus stimulantes, j'ai envie de dire. Et la stimulation, elle vient de la violence le plus souvent. Pour les consommateurs. Donc, effectivement, il y a un porno d'avant-après. Et si je peux me permettre, sans pouvoir monopoliser la parole, quand je regarde comment on a abordé le porno dans les années 70, maintenant, ce qu'on sait, c'est que la révolution sexuelle s'est faite sans déconstruire. Je sais que le mot peut choquer, peut faire parler.
Peut faire résonance à d'autres combats.
Voilà, mais la révolution sexuelle s'est faite sans être accompagnée d'une réflexion et d'une évolution sur les mécanismes de domination masculine de la sexualité.
C'est un porno masculin, c'est une vision masculine de la sexualité, c'est
voilà, ce que vous voulez dire. Les grands bénéficiaires de la révolution sexuelle et du porno, ce sont les hommes. Et il faut voir, il y a un formidable documentaire sur Gorge Profonde, qui était sur Arte, j'espère qu'il y a encore, où cette fille qui a été présentée comme étant le symbole de la libération sexuelle des femmes raconte qu'en fait, elle était juste une victime de viol quotidien pendant le tournage et qui était maquée par son mari.
Relateur Sissi, ça vous a frappé ? Ça, c'est un porno fait par les hommes, pour les hommes. Et donc, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, on connaît moins, on voit moins de porno féminin, si on peut dire.
Oui, alors moi, c'est un peu ce qui m'a frappé dans cette enquête. Il y a une information, moi, où je suis tombée des nues, c'est que les salaires des hommes sont moins importants dans le porno que ceux des femmes.
Ah, il n'y a pas la parité, là, pour le coup.
Non.
Alors, dans l'autre sens.
C'est ça, parce qu'on estime qu'un homme peut y prendre du plaisir ou y prend du plaisir, alors qu'une femme le subit. C'est-à-dire que même dans les salaires, on sous-entend, on comprend qu'en fait, elle doit avoir une compensation. Il y a même certains hommes qui acceptaient de ne pas être payés. Et par rapport à cette époque, justement, des années 70, etc., les statistiques disent qu'en fait, le porno aujourd'hui est de plus en plus violent. C'est-à-dire que dans les vidéos, il y a de plus en plus de tirages de cheveux, de crachats, d'insultes. C'est-à-dire que, effectivement, c'est ce que disait l'avocat là, dans le documentaire, personne n'est là pour juger les fantasmes des uns, des autres. Voilà, là où c'est problématique, c'est quand il y a un défaut de consentement. Mais quand on voit que toutes les vidéos, ou en tout cas une très grande majorité des vidéos comportent de la violence, qu'elles sont vues par de très jeunes enfants, sont vues par énormément de personnes, ces personnes-là ont l'impression que le sexe, c'est ça, et que c'est ça qu'il faut faire, et c'est ça qu'on aime, et c'est ce qu'il faut
produire. Pourquoi il y a de plus en plus de violence? Il y a une demande pour la violence? Le bon père de famille, maintenant, il veut non plus le porno des années à la papa, mais il veut de la violence.
Alors en fait,
si on fournit de la violence, c'est quoi? C'est qu'il y a une demande.
Mais alors, justement, c'est ce que disent. Alors, il y a les associations, il y a les spécialistes, les chiffres, etc. Et tout. Est-ce que c'est parce que justement, on propose aux gens un porno de plus en plus violent, du coup, ils ont l'impression que c'est ce qu'ils aiment bien. Il y a une forme d'addiction. Je crois que cette chanteuse qui s'appelle Billie Eilish, à 11 ans, a dit « J'étais addict aux vidéos ». Je ne sais pas si vous avez suivi.
Ouais,
c'est une chanteuse américaine. Parce qu'en fait, elle disait regarder des vidéos sur son téléphone portable depuis l'âge de 11 ans. Et elle disait qu'à 16 ans, ça avait gâché sa sexualité parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à avoir des rapports sexuels normaux. Et elle n'arrivait plus à se passer de ce type de vidéos violentes.
Et ben justement, je propose qu'on regarde ce reportage. Un tiers des enfants de moins de 12 ans, on parle d'enfants de 10, 11 ans, est exposé à des vidéos porno. Et ben regardez les ravages que ça peut faire dans un collège en Gironde. C'est un reportage de Caroline Sins, donc on parle d'enfants qui ont 10 ou 11 ans.
Ce sont des élèves choqués qui ont alerté la principale du collège. Certains de leurs camarades de 10 et 11 ans visionnent des vidéos pornographiques.
Dans les WC, bah, ils peuvent effectivement, derrière ces portes, rentrer à deux ou trois et puis se montrer les photos ou se montrer les vidéos.
Des vidéos, mais aussi des attouchements.
Des jeunes filles se plaignent que des garçons les sollicitent, les frôlent, les touchent, parce qu'ils ont envie de reproduire. C'est ce que les garçons nous disent et ils prennent ça pour un jeu.
Il y a des cinquièmes et des sixièmes, des fois, que sur les réseaux, ils se montrent un peu dénudés. Et du coup, ça fait tout le tour du collège, ça.
Des comportements qui ont choqué de nombreux élèves, en particulier les plus jeunes.
Il y avait des gens qui prenaient des gens, ils les emmenaient avec des filles, ils les emmenaient avec des garçons, ils sortaient les capotes et tout. Et ça m'a choquée.
Ça se fait pas, c'est dégoûtant en plus.
La principale a envoyé cette lettre aux 600 parents d'élèves pour les alerter sur l'hypersexualisation des enfants. Elle leur demande de surveiller l'utilisation des portables.
Ça peut-être faire prendre conscience à des parents. Ben, qu'il faut être un peu plus attentif.
Moi, je suis constamment derrière à regarder les sites où elle va, ce qu'elle fait.
Ce pédopsychiatre conseille aux parents de surveiller leurs enfants, car ces images peuvent avoir des conséquences graves tout au long de leur vie.
C'est un traumatisme, ça fait effraction. Hein, comme un coup, comme une blessure, comme un accident de vélo, ça fait traumatisme dans son cerveau. C'est toute la sexualité par la suite qui risque d'être marquée par cette empreinte traumatique.
Dans ce collège, 20 élèves ont été sanctionnés et 10 exclus temporairement.
Alors Justine Atlan, ce dont on s'aperçoit dans ce reportage, c'est que non seulement à 10-11 ans, on peut regarder des photos, mais même commencer à se montrer, être un apprenti producteur.
Bah, vous savez, en général, quand des enfants jeunes, donc enfants primaires, ont des comportements hyper sexués comme ça, d'attouchement, etc., normalement, c'est révélateur du fait qu'ils eux-mêmes subissent en général des violences sexuelles. C'est comme ça qu'on détecte des enfants qui sont victimes d'inceste ou d'attouchement, ou en tout cas qu'ils ont été témoins d'actes sexuels qu'ils n'auraient pas dû voir. Donc on se rend bien compte que les enfants aujourd'hui qui reproduisent parce qu'ils ont vu des choses sur Internet, c'est qu'ils sont victimes de violences. Alors c'est pas une violence physique, puisqu'ils ne sont pas victimes, mais c'est une agression, c'est une violence qui est faite à un enfant de lui imposer de voir ces contenus-là. Et la seule façon qu'il va avoir de gérer cette violence qu'il a reçue, c'est de refaire la même chose, parce qu'il comprend pas. En fait, il ne comprend pas ce qu'il a vu. Donc comme il ne comprend pas, mais il répète. Comme nous, quand on a vu, je ne sais pas, les tours du 11 septembre tomber, on a regardé les images. Regardez, parce que notre cerveau, il ne savait pas quoi faire de ces images. Il n'y avait pas de place dans le cerveau pour l'analyser, le mettre quelque part et mettre des mots dessous. Mais à l'enfant, c'est pareil. Quand il voit ces images qui pour lui sont de la violence, alors parfois c'en est réellement, mais de toute façon, l'acte sexuel pour un enfant, il lui apparaît violent en soi, il comprend pas. Donc ils recommencent, ils le font entre eux pour essayer de c'est quoi ce truc, qu'est-ce qu'on en fait. Donc voilà, voilà aussi pourquoi la pornographie est interdite aux enfants. C'est pour eux, c'est pour les protéger, parce qu'ils ne sont pas en capacité de gérer ce qu'ils vont voir. Après, effectivement, l'adolescence arrive, il y a des pulsions, il y a des hormones qui changent, il y a de la curiosité, il y a des envies.
On va voir les voilà. ados, mais là, c'était sur les
donc les enfants, effectivement,
les, les maîtres et les maîtresses, les enseignants en parlent aux enfants, ou est-ce que ça reste tabou, on se contente de supprimer le téléphone portable?
Déjà, comme Laurence Le Ciel l'a montré, le rapport du Sénat, ça a l'air d'être tabou, pas que pour les enfants, hein. Puisque c'est un sujet qu'on a du mal à saisir et à parler quand même entre adultes. Alors imaginez évidemment qu'à l'école, des enseignants, des enfants, les parents au milieu de tout ça, certains parents ne veulent pas qu'on parle de sexualité aux enfants. Si l'école le fait, ils vont dire « mais je vous interdis de parler de ça, qu'est-ce que vous allez mettre dans la tête de mes enfants, il ne faut pas leur en parler ». On a aussi ça en face, il ne faut pas non plus le nier. Hein. Donc ce n'est pas facile pour l'école et pour les enseignants de se positionner
vous
par rapport à ce
sujet. Vous n'êtes pas toujours les bienvenus dans les écoles, les petites classes
en disant de nous, on parle beaucoup du numérique, d'Internet, donc on est amené à parler aux enfants depuis plus jeunes, effectivement, de contenus choquants, violents, pornographiques qu'ils vont pouvoir voir. Alors, évidemment, on n'emploie pas les mêmes mots pour un enfant de 8 ans qu'un ado de 14 ans, mais on en parle. Et il y a des établissements où des parents, et beaucoup, hein, où les établissements disent « Oh là là, il ne faut pas parler de ça parce qu'on va avoir les parents sur le dos derrière qui vont nous dire qu'on ne peut pas. » Donc, il y a vraiment, en France, on est profondément handicapé sur l'éducation affective et sexuelle des enfants. On ne le fait pas. On compte sur les parents, on se débarrasse sur les parents et les familles. Or, toutes les parents ne sont pas outillés pour le faire. Ça s'apprend, c'est pas si facile que ça. On voit bien d'ailleurs que la sexualité, c'est pas aussi naturel que ça en termes de relations sexuelles. L'être humain est sexuel, évidemment sexué, mais la relation sexuelle, c'est la relation. Donc ça s'apprend. Voilà. Et donc il faut apprendre effectivement à nos jeunes, à nos enfants, à nos adolescents, qu'est-ce que c'est qu'une relation sexuelle et comment ça se passe. Les parents ne sont pas toujours les mieux placés, c'est vrai, donc l'école a un vrai travail à faire. Elle est censée le faire, puisqu'elle est censée donner 3 séances par an d'éducation à la vie sexuelle et affective dès le plus jeune âge. C'est évidemment pas fait, majoritairement c'est pas fait. Il y a, je crois, 25% à peu près d'établissements qui essayent de le faire avec des associations qui le font, mais la majorité des enfants n'ont pas ça. Et aujourd'hui, ça, plus la pornographie qui est massivement consultée, effectivement, ça cause vraiment des vrais problèmes dans la construction de la vie sexuelle des jeunes et des adultes.
Laurence Rossignol, avec votre casquette d'ancienne ministre des Familles, c'est pas facile le soir à table, entre la purée et le jambon, de dire, dis donc, t'es tombée sur des vidéos épouvantables.
Les familles ne sont pas toutes égales en la matière, et les enfants n'ont pas les mêmes relations avec leurs parents. Il y a des familles dans lesquelles c'est tout à fait facile d'expliquer ça, dans les choses sont simples. Mais même quand c'est simple, il faut faire attention, parce que la frontière entre l'information des enfants et sur la sexualité et ce que j'appellerais des propos incestuels, c'est-à-dire que la frontière est très ténue.
Donc, propos incestuels, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours aux parents d'aller trop dans le détail
exactement,
de choses avec lesquelles les enfants sont mal à l'aise d'en parler avec leurs parents.
Parce qu'un des sujets dans l'exposition précoce au porno, c'est qu'en principe, chacun doit découvrir lui-même sa sexualité. La sexualité, c'est un chemin de découverte. On n'est pas supposé savoir à 11 ans qu'il existe les pratiques qu'on voit là-dedans. Et donc, on voit dans ces vidéos. Donc déjà, les familles ne sont pas égales. Il y a des familles qui sont moralement, politiquement, philosophiquement, opposés à ce qu'on parle de sexualité à leurs enfants, et que l'école s'en charge. Vous l'avez très bien dit, quand on met en cause les cours d'éducation à la vie affective et sexuelle dans les établissements en observant qu'ils ne sont les objectifs ne sont pas tenus, la loi n'est pas respectée. Mais moi, je sais aussi que dans certains conseils d'administration d'école avec les parents, il y a des parents qui sont très rétifs ou qui veulent faire venir des associations qui vont juste expliquer comment la petite graine va être posée dans le ventre de la maman à des mômes qui, par ailleurs, en savent déjà 50 fois plus qu'eux.
Donc, il y a un sujet. Vous confrontez à ces vidéos.
Le décalage.
Donc, il y a un sujet vraiment politique là-dessus. Voilà.
Justine Atlan, un enfant de 10 ans là, qui voit ces vidéos et ce qu'on vient de voir, épouvantable, c'est sidération, il n'en croit pas ses yeux. On sait ce qu'il ressent, ce qui lui tombe dessus.
Ça lui tombe dessus, effectivement. C'est ce que dit très bien Serge Effet, je crois, si je l'ai reconnu, effectivement.
Un traumatisme.
C'est une effraction psychique, c'est-à-dire vraiment, c'est un traumatisme. C'est comme un coup de poignard qui rentre dans le cerveau et effectivement, dont il ne sait pas quoi faire. Et encore une fois, il va le manifester d'une façon ou d'une autre, parce que l'enfant, heureusement, il manifeste les choses. Ça va être peut-être des dessins, ça va être des cauchemars, ça va être de toucher sexuellement ses copains ou ses copines. Et c'est là où les adultes doivent être vigilants sur tous ces signes pour l'aider.
Alors, c'est vrai qu'ensuite, ces vidéos, elles circulent naturellement au lycée, quand on est beaucoup plus ado. Donc là, on a un regard peut-être un peu différent. Mais vous allez voir, hein, un regard différent, mais évidemment très mal à l'aise. Sujet de Emmanuel Bach et Mathieu Bayarden.
Il suffit de quelques clics et de cocher une case attestant que l'on est majeur pour accéder à des images pornographiques. une pratique courante, si on en croit ses étudiants.
L'accès est vraiment très 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 facile, on peut y aller à n'importe quel âge. Pour ma part, je sais que je suis allé, j'étais pas majeur en tout cas. Voir des femmes nues, etc., etc., c'est vrai que c'est assez choquant et perturbant, sachant que c'est la première fois.
Par exemple, tu te balades, etc., tu vois viol, nan, t'es jeune, tu te dis, waouh, quand même, c'est... Les gens, ils banalisent ça et c'est vrai que c'est pas normal. Ils devraient mettre un contrôle avec une carte d'identité, etc.
Justine Atlan, vous voyez, est-ce qu'on n'est pas des boomers en réagissant ainsi? On voit bien que les enfants, ils ont du recul, ils savent que c'est Internet, ils savent que c'est pas la vraie vie, ces vidéos... auxquels ils sont exposés.
Non, pas, ils savent rien du tout, pas du tout.
Bah, lui, il avait l'air de dire quand même.
Alors lui, d'abord, manifestement, il est plus grand. En plus, c'est pas vrai. On n'est pas des boomers et on n'est pas ringards. Ça, c'est totalement faux de penser ça, parce que la génération d'aujourd'hui, qui a la vingtaine à peu près, donc qui a été la première génération qui a été exposée effectivement assez jeune à ces contenus pornographiques, elle-même majoritairement. Hein, Elle ne comprend pas pourquoi elle a été exposée aussi jeune à ces contenus et elle regrette de l'avoir vue aussi jeune parce qu'effectivement, elle dit qu'à 11 ans ou 12 ans, c'était quand même assez choquant ce qu'ils ont vu. Certes, ça correspondait pour certains à une curiosité, mais c'est pas la frustration, ça existe aussi. C'est bien pour l'éducation, donc c'est bien parfois d'être frustré, de ne pas pouvoir aller voir. Puis c'est comme ça qu'on fait des expériences, qu'on tente et effectivement, comme l'a très bien dit Laurence Rossignol, qu'on découvre sa propre sexualité, mais d'abord avec ses désirs. C'est nos désirs qui doivent nous guider et pas des modèles qu'on doit reproduire de l'extérieur. Et c'est vrai qu'effectivement, au contraire, ces jeunes aujourd'hui, regardez, ils sont demandeurs de dire il faudrait avoir, nous empêcher en fait d'aller les voir. C'est normal qu'on ait envie d'aller voir parce qu'on est curieux, mais il faudrait nous empêcher d'aller le voir et mettre alors des systèmes de vérification d'âge, etc. Donc au contraire, ils sont tout à fait prêts. Hein. Les jeunes aujourd'hui, quand on leur demande vous ferez quoi pour vos enfants plus tard, mais je vais vous dire, leurs enfants, ça va être beaucoup plus strict au niveau des numériques que nous, parce que nous, on a laissé tout faire parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. C'était aucune malveillance, bien évidemment, hein. Mais on ne savait pas, donc on laissait faire. Et puis évidemment, aucun parent n'a envie d'imaginer son enfant dans sa chambre en train de regarder du porno. Donc ça, on préfère être dans le déni sur ce sujet-là. Donc voilà, aujourd'hui, tout est prêt pour le faire, techniquement. Je pense qu'au niveau de la société, les gens sont prêts, comprennent qu'il y a un vrai sujet. Politiquement, manifestement, on y est. Donc il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, c'est le cas de le dire.
Rola Tarsici disait, vous donniez l'histoire de Billie Eilish qui, à 11 ans, regardait les vidéos porno et qui, 5 ans plus tard, dit « ça m'a gâché ma sexualité ». Est-ce que les filles et les garçons réagissent de la même façon?
Oui, bien sûr. Alors, forcément, on l'a parlé depuis un moment. Les filles, elles sont plus victimes réellement.
Oui, parce qu'elles ont le mauvais rôle, souvent.
Parce qu'effectivement, c'est une pornographie
masculine.
Centrée sur le désir de l'homme et où la femme n'est qu'objet au service du plaisir de l'homme. Voilà. Et les filles se construisent comme ça, ce qui est un peu dramatique pour leur vie.
Le Figaro titré « Les ravages d'une génération biberonnée au porno ». Le gynécologue Israël Nissan, Laurence Rossignol, vous en parlez tout à l'heure, disait « Ces vidéos, pour les garçons, c'est une éducation au non-consentement ». Est-ce qu'on risque d'avoir une génération de garçons à ne pas demander leur avis aux femmes?
Alors, on est dans un mouvement de société qui nous rassemble pour faire reculer les violences faites aux femmes, les violences sexuelles en particulier. On explique que voilà où sont les limites du consentement. Et alors, face à nous, qui parlons, qui expliquons, on a cette espèce de vague, ce raz-de-marée du porno qui nous arrive, et des fois on se demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour endiguer ça avec nos petites mains? Donc c'est pour ça qu'il faut, vraiment couper, empêcher l'accès des mineurs. Mais moi je vais plus loin, je pense que le porno est toxique pour tout le monde.
Alors, question, alors justement, il y a 36% des Français qui regardent. Est-ce qu'on sait qui regarde?
Non. Alors moi, ça, je ne sais pas.
On ne sait pas.
D'abord, il y en a beaucoup plus. Il n'y a pas 36% de... C'est toute l'hypocrisie sur la pornographie. Si vous mettez tous les jeunes qui en ont tous vu, effectivement, depuis le plus jeune âge, plus les adultes, hommes et femmes, hein, parce que c'était quand même un des gains, entre guillemets, de l'Internet, c'est que les femmes ont pu avoir accès à la pornographie qui avant était réservée simplement aux hommes. Donc ça aurait pu être un gain.
Et les mineurs ne sont pas comptabilisés dans ces chiffres.
Voilà. Donc il y en a plus. Il y en a beaucoup plus, effectivement, qui regardent. Alors la question après de la pornographie,
Est-ce que ce sont majoritairement des hommes? Vous avez l'air de dire les femmes regardent aussi
Bien sûr que les femmes regardent quand on interroge les femmes, bien sûr. Depuis que l'Internet a ouvert effectivement la pornographie.
Pourtant, c'est un porno fait pour les hommes.
Bah parce que les femmes n'allaient pas au cinéma pour voir des films pornographiques. Je veux dire, ça, parce que les films pornographiques, de toute façon, n'étaient pas effectivement faits pour les femmes. Et puis, de toute façon, alors là, il y a toute la question sociétale. Et les hommes auraient dit, qu'est-ce que c'est que cette femme qui vient au cinéma avec nous? C'est quand même un endroit pour les hommes où ils pouvaient se masturber dans un cinéma en regardant de la pornographie. C'était pas du tout, la femme n'était pas incluse là-dedans.
D'accord.
Du reste, donc effectivement, Internet a permis quand même d'ouvrir, si ça en était resté sur des contenus un peu différents, avec tout ce qu'on peut parler de légitimité de la pornographie. Après, c'est vrai que c'est ce que disait Laurence Rossignol, on arrive aujourd'hui à des films qui ne sont pas du cinéma, qui sont en fait du viol filmé, si on va court, et on part quelque part du Kama Sutra, qui était des dessins. Donc on peut rester sur de la suggestion sur les dessins qu'il y avait sur les fraises de Pompéi, sur des Kama Sutra, sans avoir l'air complètement réactionnaire dans mes propos, mais je veux dire, suggérer, générer du fantasme, il n'y a pas de sujet à représenter Là, aujourd'hui, on en est effectivement dans de l'industrie mafieuse, hein, pour, majoritairement, alors, qui effectivement filme des viols.
On est quand même loin. On est complice quand on regarde tout, donc tous les Français sont complices, puisque vous avez l'air de dire que c'est beaucoup plus que 36%.
Ah ben oui, alors, les gens ne savent pas forcément les conditions dans lesquelles sont tournées ces vidéos. Mmh. Moi, je sais que pendant cette enquête, la plupart des personnes me disaient « Ah bon, mais moi, je ne savais pas du tout que c'était tourné comme ça. » C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien aussi de faire prendre conscience aux gens que, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui joue de la comédie. Alors, pas systématiquement, attention, là, on prend des pincettes, etc. Mais c'est-à-dire que, finalement, à la suite à mon reportage, moi, qui est passé hier soir, j'ai eu énormément de réactions de personnes qui me disaient « Je n'imaginais pas du tout, du tout, du tout que ça pouvait être tourné comme ça, parce qu'on ne s'y intéressait pas, on ne voulait pas le voir, on se disait « Bon, voilà, je ne sais pas trop qui, comment, combien. » Et en fait, la vérité, c'est que finalement, la société ne s'y intéressait pas vraiment, quoi.
Le titre, Laurence Rossignol, complément d'enquête diffusée hier soir, c'est « Faut-il vers une interdiction du porno, hein, c'est ça ? Ou porno bientôt interdit ?»
Point d'interrogation,
voilà. Est-ce que c'est envisageable ? Et ça voudrait dire quoi ?
C'est pas si simple d'interdire le porno.
Même les Chinois, ils ont du mal à réguler Internet. Donc,
Ouais, enfin, ils y arrivent pas si mal, quand même. Bon. Ils arrivent pas si mal. D'autres, je crois que... Mais en Iran, vous voyez, en ce moment...
Mais il y a toujours des VPN.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous avez des sites sur lesquels les sites indiquent eux-mêmes comment contourner l'interdiction.
C'est-à-dire, voilà, les moins de 18 ans.
Les moins de 18 ans.
Ça, c'est une faillite totale. Hein. Moins de 18 ans, ça ne marche pas.
Tout la conclusion à laquelle on en arrive avec nos collègues, c'est que, en fait, aujourd'hui, l'industrie porno telle qu'elle est aujourd'hui a érigé les violences faites aux femmes en système. Voilà, c'est un système qui va depuis le recrutement au tournage jusqu'au contenu. Et je pense que le porno promeut une vision et des représentations de la sexualité qui sont toxiques sur des jeunes cerveaux qui découvrent la sexualité ainsi, mais aussi sur des adultes addicts au porno. Dans le porno, je prends un exemple. Tiens, par exemple, vous allez sur un site et vous regardez rien que les titres des vidéos. Il n'y a même pas besoin de les regarder. Vous regardez les titres.
Ne les dites pas trop quand même, parce qu'il est... Si on peut...
Non, je vais être...
Soft.
Soft, vous savez, voilà.
Parce que j'imagine qu'ils sont...
Je vais être soft. Le beau-père fait découvrir... blablabla. Aux jumelles.
Ah ouais, d'accord.
Mon demi-frère.
Ça pousse à l'inceste.
Voilà, vous avez fini ma phrase. Déjà, on sait que dans les familles recomposées, il faut qu'on soit très clair pour expliquer où sont les frontières. Et dans les familles, d'ailleurs, même pas recomposées. Mais qu'est-ce qui est possible d'expliquer aux enfants ? Un adulte n'a pas le droit de te faire ça. Alors, un adulte, tes parents, ton père, voilà, et puis ton beau-père, et puis ton frère par recomposition. Et on a là des titres de vidéos qui banalisent totalement l'inceste. Alors ça a de l'effet sur les gamins qui verraient ça, mais sur les adultes aussi quand même. Ouais. Voilà. Et donc, moi, je me demande ce que pense un homme qui a passé sa nuit à regarder du porno avec des femmes qui se font maltraiter dans tous les sens quand il arrive le lendemain au bureau et qu'il voit sa chef de service. Je n'arrive pas à croire qu'il y a une dissociation totale dans les cerveaux entre le statut des femmes dans le porno et les humiliations qu'elles y subissent, et le rapport aux femmes dans la vie civile et quotidienne de ces hommes. Je ne crois pas à cette dissociation.
Justine, attends, un conseil pour les parents qui souhaiteraient, après tout ce qu'on a dit, mettre une petite barrière entre leurs enfants et ces vidéos.
Déjà, ne pas équiper systématiquement leur enfant d'un smartphone. Souvent, ils ont envie d'offrir un téléphone à leur enfant pour rester en contact avec lui et envoyer des SMS. Ils n'ont pas nécessairement envie, effectivement, qu'il ait accès à Internet tout d'un coup, du jour au lendemain. Donc, pensez à offrir un téléphone quand on veut équiper son enfant à l'entrée en sixième, mais pas cet outil smartphone qui va
pas
l'ouvrir.
Sur Internet, quoi.
Internet et les réseaux sociaux, c'est deux choses différentes. On est un peu conditionné par des fabricants qui veulent tout de suite nous mettre le smartphone ou rien. Et je pense qu'effectivement, pour les enfants, pour les parents, c'est vraiment très compliqué de résister. Donc, voilà, essayez de trouver ça comme supercherie pour éviter, en attendant que les sites pornographiques soient conformes à la loi. Donc, effectivement, on demande à vérifier l'âge des...
Je crois que c'est en Suède où les pouvoirs publics, en fait, pour empêcher que les enfants fassent leur éducation sexuelle sur Internet, sur les sites pornographiques, font des cours d'éducation sexuelle dès le plus jeune âge. Alors, il y avait un dessin animé avec des petites peluches qui s'appelaient Zizi et Zazette. Et effectivement, on voyait des enfants en CE1, CE2, CM1. Voilà, s'intéresser à la question comme ça pour petit à petit s'y habituer.
Qui vous tombe dessus. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que votre document, votre enquête, un complément d'enquête est disponible sur le site de France Télévisions en replay. Vous restez sur France Info, puis on se retrouve lundi pour un nouvel Info C'est Clair. Bon week-end, à lundi.